You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Au sommaire, inondations dans la région des Townsville, le bilan ne cesse de s'alourdir. Et crise des gilets jaunes, le président Macron continue les discussions, cette fois-ci avec ses opposants. Et selon l'ONU, les quatre dernières années sont les plus chaudes de l'histoire moderne. La facture des dégâts causés par les inondations dans la ville de Townsville, au nord, dans le Queensland, ne cesse de s'alourdir. Rappelons que ces inondations exceptionnelles, d'une violence rarement vue, ont déjà fait deux morts et poussent des milliers de personnes hors de leur foyer. Plus de 20 000 demeures seront affectées selon les autorités du Queensland. Et le premier du Queensland, Madame Anastasia Palaszczuk, s'inquiète de la lourdeur des dégâts et des retombées sur le Queensland.
These cleanups can take weeks and months. It just depends on the extent of the damage. We know after tropical cyclone Debbie, depends on how quickly the insurance companies come through in terms of fixing places up. If some people have just had minor damage through, I mean, you might see people back in their homes within a week or two. But the big damage is going to have a big impact on people. So we're going to do everything we possibly can.
Et le gouvernement australien annonce qu'il a accumulé plus de 110 millions de dollars de frais de santé Medicare non payés, donc non remboursés plus tôt. Ce montant s'est accumulé car des milliers de personnes n'ont pas donné à Medicare les numéros de compte sur lesquels verser ces remboursements. Il faut rappeler que Medicare a cessé d'envoyer des chèques de remboursement des frais de santé depuis plusieurs années déjà. La pratique courante consiste donc à transférer des sommes dues sur les comptes des clients. Et le ministre de la Santé, Michael Keenan, a déclaré à la ABC que près de 670 000 personnes n'ont pas reçu des sommes qui leur sont pourtant dues. L'ironie, souligne le ministre, c'est qu'il faut à peine quelques minutes pour fournir ces données bancaires et clôturer les transactions.
This is the way that the government operates, and this is the way, of course, that most organisations now operate. The days of issuing cheques now are long gone. It's much simpler and easier for Australians to do it this way. And we would like to see people give us the simple details so they can get the rebates paid directly to them.
Et on reste dans le domaine de la santé. Une commission gouvernementale australienne recommande de rembourser une dizaine de consultations par an pour une visite chez le psychologue sans nécessairement avoir été diagnostiqué d'une maladie mentale. Selon nos confrères de Sydney Morning Herald, la commission gouvernementale recommande de rembourser des honoraires pour consultation par un psychologue pour des personnes qui présentent des risques de développer un désordre mental. Actuellement, les gens peuvent se faire rembourser les visites chez le psychologue uniquement si un médecin généraliste estime qu'ils ont besoin de suivi psychologique. Et ce jeudi 7 février marque le 10e anniversaire des feux de forêt violents qui ont ravagé et endeuillé la localité de Marysville, une localité située à une centaine de kilomètres au nord-est de Melbourne. Cet événement est plus communément connu sous le nom de Black Saturday. Pour marquer l'événement, les habitants de Marysville vont se réunir dans le stade de cricket local où ils avaient été évacués il y a une dizaine d'années. Ceci s'inscrit dans le cadre de nombreux événements commémoratifs organisés partout à travers le Victoria à la mémoire des 173 personnes qui ont perdu la vie dans le fournier du 7 février 2009. Il faut rappeler que l'incendie a aussi fait 400 blessés, détruit plus de 2000 propriétés et 7500 personnes avaient dû être évacuées. La petite communauté de Marysville a été la plus durement touchée, avec 40 habitants de la petite communauté donc, qui ont trouvé la mort dans ces feux violents. Et on passe à l'étranger, et plus précisément en France, où le président Emmanuel Macron poursuit les consultations pour résoudre la crise des gilets jaunes. Il a reçu hier ses principaux opposants, le chef des Insoumis et la présidente du Rassemblement national. Marine Le Pen demande tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale. Reportage avec Anne Swedman pour RFI.
L'entretien entre le chef de l'État et la présidente du Rassemblement national aura duré 1h30. À son issue, celle que les sondages placent en tête à quelques mois des européennes fustige le principe du grand débat et l'idée d'un référendum à plusieurs questions, un QCM, critique-t-elle, avant de redire son plan de sortie de crise en 3 temps.
La proportionnelle intégrale, quitte à la sortir d'une prime à la liste arrivée en tête, la mise en œuvre du référendum d'initiative populaire, dont vous savez que nous le défendons depuis longtemps, et je lui ai indiqué qu'il me semblait que la dissolution apparaissait le meilleur moyen pour pouvoir aboutir à une Assemblée nationale qui soit enfin représentative et dans laquelle enfin les débats, véritablement les préoccupations des Français pourraient être exprimées.
Un entretien en forme de symbole du duel installé par l'Élysée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dernier exemple en date, la mise en place imminente par le parti majoritaire d'une task force anti-RN. La preuve que nous sommes bien au centre du jeu, réagit l'entourage de Marine Le Pen.
Et en Europe, le refus de la Commission européenne d'entériner la fusion entre les géants de la construction ferroviaire français et allemand, respectivement les firmes Alstom et Siemens, continue de faire des remous. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, était l'un des tout premiers à réagir. Pour lui, c'est une rare faute économique et politique. À l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale française, la classe politique était quasiment unanime à regretter cette décision, à l'exception notoire des communistes et du Rassemblement national. En tout cas, pour Gilles Legendre, le patron des députés de la majorité, les règles de la concurrence européenne doivent être changées. Gilles Legendre ajoute que les prochaines élections européennes, donc prévues au mois de mai prochain, offrent l'occasion de commencer ce changement.
Ce n'est pas parce que je la regrette que je critique la Commission ou que je critique Mme Vestager. Ça veut dire une chose, ce sujet-là, mais c'est vrai sur ce point-là comme sur de nombreux autres. L'Europe est arrivée d'une certaine manière au bout d'une certaine logique, d'une certaine culture. Le président a parfois mentionné le caractère ultralibéral de la culture qui pouvait avoir imprégné la gouvernance européenne pendant des années. On ne va pas être constamment en surenchère dans un respect scrupuleux de la concurrence, dans un respect scrupuleux de la libre-échange, dans un respect scrupuleux de la liberté de circulation, etc., 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 alors que d'autres acteurs de l'économie mondiale ou des relations internationales n'appliquent pas les mêmes règles avec la même densité. Donc c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'élection européenne soit aussi l'occasion de poser ce genre de questions.
Et on reste en Europe où le Premier ministre irlandais s'était rendu hier en visite à Bruxelles. Il a rencontré Donald Tusk, le président du Conseil européen. Et cette visite intervient à la veille de l'arrivée à Bruxelles de Theresa May, la première ministre britannique, qui attend de nouvelles concessions de l'Union européenne pour satisfaire son Parlement. Compte rendu depuis Bruxelles, Pierre Benazet pour RFI.
Le Premier ministre irlandais peut se targuer de recevoir de la part des dirigeants de l'UE les assurances qu'il était venu chercher à Bruxelles, à savoir la solidarité des Européens avec l'Irlande, leur engagement à défendre le filet de sécurité qui doit y garantir l'absence de frontières. Les exigences de la Chambre des communes pour une révision de ce filet de sécurité semblent donc toujours aussi peu réalistes, et ceci n'induit guère à l'optimisme le président du Conseil européen, Donald Tusk.
Je crois très fort qu'une solution commune est possible et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la trouver. Le sens des responsabilités nous incite aussi à préparer un éventuel fiasco. Le Premier ministre et moi-même avons évoqué les actions nécessaires s'il n'y a pas d'accord. Et au fait, je me demande quelle pourrait être la place spéciale en enfer pour ceux qui ont fait campagne pour le Brexit, sans même l'esquisse d'un plan pour qu'il se produise en toute sécurité.
Safely. Donald Tusk espère que Theresa May va arriver à Bruxelles avec des propositions réalistes pour éviter le scénario catastrophe. Il réclame de la Première ministre des alternatives crédibles garantissant la paix en Irlande et des idées permettant d'avoir une majorité claire à la Chambre des communes. L'accord de sortie, lui, ne sera pas renégocié, martèlent les Européens.
Et on se souvient qu'au mois de décembre dernier, à la surprise générale, le président des États-Unis, Donald Trump, avait invoqué une défaite totale de l'État islamique et il s'était appuyé sur cette défaite pour annoncer le retrait des troupes américaines de Syrie. Une proclamation critiquée, voire mise en doute. Et hier, le président Trump a réuni des partenaires de la coalition anti-État islamique pour faire le point sur la situation. Le président Trump a réaffirmé la victoire totale contre l'État islamique et il insiste sur sa détermination de poursuivre les combats et avoir des mécanismes en place donc pour contrer l'État islamique si jamais il venait à renaître de ses cendres. On l'écoute.
L'EI ne peut plus revendiquer le contrôle administratif de régions en Syrie et en Irak. Ils ne peuvent plus exploiter les ressources naturelles parce qu'ils n'ont plus de territoire. Et ils ne peuvent plus prélever l'impôt. Ils ne contrôlent plus d'écoles pour imposer leur idéologie vicieuse aux enfants. Le groupe État islamique n'a plus de territoire à partir duquel projeter des attaques terroristes sur d'autres pays. Et ils n'ont plus de territoire pour recruter des combattants étrangers. Voilà, ils ont perdu leur territoire. C'est un facteur très important.
Et selon les Nations Unies, ces quatre dernières années étaient les plus chaudes depuis qu'on a commencé à répertorier les données sur le climat. L'analyse des tendances climatiques en 2018 a retenu surtout les feux violents en Californie et en Grèce, la sécheresse en Afrique du Sud et les inondations à Kerala en Inde. Selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU, la moyenne de la température mondiale était de 1 degré au-dessus de la moyenne de la période pré-industrielle. Pour combattre le réchauffement climatique, près de 200 gouvernements ont adopté l'accord de Paris sur le climat en 2015. Il faut rappeler que l'accord de Paris vise à éliminer l'utilisation des carburants combustibles fossiles et de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés seulement au-dessus de la moyenne pré-industrielle. À présent, un coup d'œil météo à travers les principales villes australiennes. Perth, 38 degrés. Adélaïde, 31 degrés. Melbourne, 30 degrés. Hobart, 27. Canberra, 32 degrés. Wollongong, 25 degrés. Sydney, 28. Newcastle, 27. Brisbane, 29. Cairns, 29 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 71 centimes de dollar US et 63 centimes d'euros. C'est tout pour le journal. À présent, un rappel des titres avant de passer au magazine des sports de Jean-Noël Ducasse. Inondation dans la région de Townsville, le bilan ne cesse de s'alourdir. Et crise des gilets jaunes, le président Macron continue des discussions avec ses opposants. Et selon l'ONU, les quatre dernières années sont les plus chaudes de l'histoire moderne.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.